Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et oui, une chevauchée conviviale et informative pour apprendre et se détendre, c'est l'équipée sauvage, l'un des nouveaux rendez-vous de cette rentrée que vous retrouvez chaque jour sur Europe 1 entre 16h et 18h avec Mathieu Noël, accompagné de sa complice Eva Roch et entouré des journalistes compétiteurs de la rédaction d'Europe 1, car l'équipée sauvage, hein, c'est aussi une compétition, chacun d'eux tentant de convaincre l'invité de Mathieu Noël avec un bon sujet. Invité donc pour arbitrer et dont le vote compte, tout comme le vôtre, car je rappelle qu'en semaine, vous votez pour élire le chroniqueur du jour via Twitter et Facebook. Alors le week-end, on se replonge avec délice dans les moments marquants de la semaine et on va commencer avec Jérôme Lacroix, venu défendre son sujet face au violoniste Renaud Capuçon et à ses adversaires de l'info, Emmanuel Duteil, Jean-Philippe Ballas et Anicène Bida.
Jérôme, selon vous, la Chine serait le deuxième pays du basket?
Alors écoutez ça, si je vous dis basket instinctivement...
Bah, NBA.
Ah, voilà. Ouais, pensez NBA, bah voilà.
Ou encore pensez à l'associé, voilà.
Vous pensez à l'associé aux États-Unis. Oui. Bon. Eh ben, vous ne pensez pas à l'associé à la Chine. Eh ben, moi, je vous dis que le mondial de basket, il se tient en ce moment en Chine. Les Bleus participent, hein, la Chine aussi. Eh ben, en Chine, le basket, il est érigé au rang de sport national aussi important que le tennis de table. Et
mais
ce.
Non. Mais pas du tout. Vous allez enquêter?
Et ce, ça date pas d'hier. Depuis près d'un siècle, depuis 1935. Écoutez ça hier soir, c'était à la télé chinoise, CCTV, le tentaculaire et principal réseau du pays. Alors vous entendez la passion des commentateurs et du public, c'était lors du deuxième match du mondial. Chine-Pologne, c'était à Pékin, les travées de la salle étaient bien garnies, comme toutes les salles de la compétition donc de ce mondial, malgré le prix, 500 yuan, soit environ 70 euros. Les Chinois, ils se passionnent pour cette compétition parce qu'ils accueillent un mondial pour la toute première fois et enfin, parce que c'est la 18e édition de la Coupe du Monde de basket organisée, pour les Chinois, l'attente a été longue parce que ça fait des années que ce sport est omniprésent partout, ne serait-ce que dans les rues, des villes et pas que, également des campagnes.
Alors, vous nous disiez que le basket est érigé en sport national en Chine. Les chiffres sont vertigineux?
300 millions de pratiquants au basket, du basket selon les estimations. 20% des Chinois partout dans le pays. 600 000 villes possèdent au moins un terrain de basket, dans les campagnes aussi. Les Chinois s'adonnent au streetball, au basket de rue. D'ailleurs, au passage, une image pour le moins surprenante. La cité interdite, 6 siècles, hein, nous contemple. Hein. Aux alentours, on trouve quoi? Eh bien, 2 terrains de basket. Mais... parfaitement entretenus. Ils servent aux employés de l'enceinte qui jouent pour décompresser ou pour passer le temps. Les audiences télé, autre chiffre stratosphérique, 640 millions de Chinois regardent régulièrement la NBA, le championnat américain, donc la référence. L'émission sportive la plus regardée en Chine, c'est ça. What time is it? Saturday prime time. NBA Saturday Prime Time, chaque semaine, l'émission consacrée au basket américain, elle est regardée par 28 millions de Chinois toutes les semaines.
Je dois dire que vous me bluffez aujourd'hui, Jérôme Lacroix, avec cette info. Mais alors, comment on explique cette passion de la Chine pour le basket?
Un bond dans le temps, de plus de 100 ans en arrière, fin du 19e siècle, débarquent en Chine les missionnaires, Mathieu, du YMCA.
Ce sont que j'ai un YMCA chinois, si vous voulez, en stock.
J'en étais sûr, mais non. Ce sont les missionnaires américains du Young Men's Christian Association. Mmh. Ils arrivent avec, dans les valises, 2 bouquins d'importance équivalente, manifestement. La Bible et un autre qui s'appelle « Les 13 règles du basket ». Ce sont deux ces missionnaires qui introduisent le basket en Chine. Et ça prend tout de suite. Les élites se passionnent pour la discipline et très vite, récupération politique. Le basket est mis en avant par le Parti communiste pour les valeurs qu'il véhicule, l'effort physique, le sacrifice pour le collectif, ça c'est très important.
C'est quand même fou d'avoir choisi un sport typiquement américain en plein air communiste.
Preuve de l'implantation indéfectible, le basket est plus que jamais encouragé lors de la révolution culturelle de Mao Zedong à partir des années 60, alors que ce qui venait de l'Occident était en grande partie banni. Et bien pas le basket. Volonté politique, il faut rayonner par le sport. Et puis, pour tout un chacun en Chine, il s'agit alors d'occuper, j'ai trouvé cette formule, ça m'a vraiment amusé, il s'agit d'occuper les autres 8 heures de la journée, celles qui sont consacrées ni à travailler, ni à dormir. Alors pendant toutes ces années, le basket chinois se développe selon une identité propre, justement pas du tout inspirée des États-Unis. Aujourd'hui, ça a un peu changé.
Oui, la Chine du basket aujourd'hui est très influencée par les États-Unis.
Voilà, et de son championnat national, la NBA, ça commence dans les années 90. Les Américains, très malins, comment ils se sont implantés? Ils ont cédé gratuitement les droits télé à la Chine une année. Et ça a pris tout de suite. Voilà le pont entre Chine et États-Unis établi, c'est pas rien. Des joueurs chinois s'exportent alors en NBA. Le plus connu, c'est Yao Ming, 2m29 sous la toise. Hein. 9 ans de NBA, 2002-2011 à Houston. Et la folle histoire de Yao Ming, c'est que le régime communiste avait ciblé deux parents qui, potentiellement, en s'unissant, pouvaient donner
un basketteur.
Oui, et si, absolument. Voilà.
C'est un peu flippant.
Voilà. Aujourd'hui, il est retraité, ce joueur, mais il reste une personnalité adulée. C'est un dieu vivant pour des millions et des millions de Chinois.
Renaud Capuçon, il vous reste le temps de faire un peu de sport entre deux concerts et entre deux avions.
Oui, j'essaie de courir chaque fois que je peux, surtout en décalage horaire.
Eva Rock ?
Je cours aussi.
Merci. Ça, bizarrement, beaucoup de réactions sur Renaud Capuçon, mais vous, tout le monde s'en fout.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
2 heures pour faire le plein de bonne humeur avec toujours Renaud Capuçon, qui était l'invité de Mathieu Noël cette semaine, le violoniste, bien sûr. Eva Rock, qui veille au grain. Et puis nos journalistes compétiteurs venus défendre leurs meilleures chroniques. Anissé Mbida, Jérôme Lacroix, Emmanuel Duteil et tout de suite Jean-Philippe Ballas.
Il faut dire qu'il n'est plus là pour rigoler. Alors que sa dernière place au classement commence à avoir des répercussions sur sa carrière.
Moi, je viens de demander une augmentation. On m'a dit, t'as combien de points chez Noël ? 0. Bah, on repasse en décembre.
Quel sujet avez-vous décidé de défendre aujourd'hui, Jean-Philippe ?
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai fait le test tout à l'heure en venant à la radio. J'ai traversé un jardin public et c'est une catastrophe, les amis. Plus personne ne regarde, plus personne. C'est chacun dans son coin, comme ça. Alors,
sur son smartphone.
Si encore, c'était pour lire un bon bouquin, mais évidemment, c'est pour regarder l'écran de son petit smartphone. Bref, comme disait ce bon vieux Alain Souchon, bien avant l'heure, c'est l'ultra-moderne solitude. Et c'est pour combattre cet isolement, justement, qu'une petite ville du sud de l'Angleterre a décidé de mettre en place des bancs pour parler. Oui, c'est une idée de la police du coin. C'est la police de Burnham. Alors, des bancs publics avec un petit écriteau bien en évidence, un écriteau qui vous dit en résumé, si ça ne vous dérange pas que quelqu'un s'arrête, vous dise bonjour et entame la conversation avec vous, alors vous êtes le bienvenu sur ce banc. Le banc des gens heureux, si l'on peut dire, et un banc surtout destiné aux personnes âgées, parce que ce sont elles qui souffrent le plus de l'isolement, elles le disent. Alors, parfois, elles passent des journées entières hein, sans parler à personne. Alors, peut-être quelques mots à la caissière du supermarché ou au boulanger du coin, mais à part ça, pas grand-chose. Et ça devient un vrai problème de santé publique aujourd'hui, parce qu'on a des personnes qui peuvent être vulnérables. Et le simple fait de parler à quelqu'un comme ça sur un banc, ça peut permettre de repérer un problème de santé, un problème de mémoire, un problème physique, ou peut-être des soucis, tout simplement des soucis domestiques à la maison. Et puis, ça permet de parler, enfin, de se reparler de musique, de littérature, de la pluie, du beau temps, tout ça, partager un petit moment de vie. Je dois dire que cette initiative en Angleterre, elle est en train de faire des émules. On en parle beaucoup dans le monde entier. On en parle en Australie, on en parle aux États-Unis. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu dingue de rappeler aujourd'hui que des bancs publics, ça permet de parler à des inconnus, qu'on peut tout simplement se dire bonjour. Alors, ça arrive encore dans les petites villes. À Paris, je ne vous cache pas que c'est un peu chaud. Alors, si jamais vous avez une personne âgée près de chez vous, et vous avez remarqué qu'elle ne parlait pas à grand monde, vous lâchez votre téléphone 5 minutes, vous vous asseyez sur un banc avec elle et vous taillez un petit brin de causette.
Mais oui, Eva, vous me demandez souvent pourquoi on s'assoit sur un banc et qu'on discute un petit peu. Moi, je suis dans cette dynamique-là. Vous voyez.
Et j'ai fait graver un petit cœur sur le banc où
avec
on aime
la date
bien
de notre
se retrouver.
Rencontre.
Oui, exactement.
C'est beau.
Ouais.
Merci Jean-Philippe. Je dis joli rebond avec cette belle chronique, mais on me fait signe qu'on a le temps pour la question vache de l'autre chroniqueur. Anissé, les bancs publics.
Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal, cette petite histoire. Ouais. Mais simplement, je pense qu'elle se heurte à la réalité aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les bancs publics, dans les villes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? On met des dispositifs anti-SDF. On fait des bancs individuels. On ne fait plus de bancs parce que les SDF s'allongent. Et donc, on fait des sièges individuels. Donc, je demande à Jean-Philippe Ballas comment on va faire pour taper la causette avec des bancs individuels qui sont espacés de 5 ou 6 mètres. On va reprendre son téléphone portable ?
Eh bien, vous savez quoi, Anissé ? On restera debout. Et voilà.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et oui, l'équipe est sauvage, c'est apprendre en s'amusant avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Rock, mais aussi les journalistes de la rédaction d'Europe 1 en compétition pour la meilleure chronique. Et on va retrouver à présent Alain Siroux face à l'invité du moment, la grande Sophie.
Alain Siroux, vous êtes notre expert scientifique et dernier concurrent du jour. Longtemps, on a cru que l'honnêteté était une question de personne. Il y aurait des gens foncièrement honnêtes, comme moi. Une honnêteté qui les amène d'ailleurs parfois à se tirer une balle dans le pied.
Quel con qui m'a mis que le son, c'était Eva alors que c'était Céline. Si le con, c'est moi, je me vire.
Là, bon, bien d'être honnête, mais pas trop non plus. Et puis, il y a les autres. En fait, Alain, l'honnêteté, ce n'est pas une question de personnalité.
Non, et c'est ça qui est extraordinaire. On parlait de science. Hein. La science, c'est quoi? C'est la curiosité. Et la curiosité des chercheurs qui ont réalisé cette étude est formidable. C'est une étude qui est parue dans Science cet été et qui a été réalisée à une échelle internationale, puisque ce sont des chercheurs de l'université de Zurich, du Michigan, de l'Utah, qui ont travaillé sur 40 pays et, tenez-vous bien, 355 villes dans lesquelles ils ont perdu des portefeuilles.
Ouais.
Et c'était quoi l'idée? L'idée, c'était d'avoir un portefeuille qui soit le même partout, portefeuille identique, vous voyez, un peu en plastique, qui contenait des cartes de visite avec le mail du propriétaire.
Ouais, ouais, ouais.
Avec une liste de courses, avec une clé, parfois pas de clé d'ailleurs, et puis avec des sous, mais parfois pas du tout. Et vous aviez des billets et des pièces qui démarraient, je crois, à 13,45 $, qu'on a adapté en fonction des pays, et qui allaient jusqu'à 94,15 $. Donc le principe a été le suivant, c'était pas de les perdre dans la rue, c'était de les rapporter dans certains endroits qui sont des comptoirs de différentes institutions. Donc les chercheurs sont arrivés dans des banques, au théâtre ou au musée, à l'accueil, au bureau de poste, à l'hôtel, au commissariat. Ils ont dit « Ah, j'ai trouvé ça dans la rue, écoutez, j'ai pas le temps, rendez-le à leur propriétaire. » Et puis ensuite, ils ont examiné les retours.
Oh, c'est dégueulasse.
Et ça, c'est extraordinaire parce que, tenez-vous bien, dans 38 pays sur 40, plus le contenu du portefeuille est important en argent, plus le taux de retour au propriétaire est important.
Ah bon ?
C'est contre-intuitif.
Ah, c'est contre-intuitif totalement.
Totalement contre-intuitif, c'est-à-dire que on retourne à son propriétaire un portefeuille perdu d'autant plus volontiers que celui-ci contient plus d'argent. On a regardé aussi en fonction des pays. Vous savez quel est le pays qui est le plus honnête, entre guillemets ?
La Suède.
La Suisse.
La Suisse.
Ah, ça ne m'étonne pas.
Ça
ne m'étonne pas.
La Suisse, après c'était la Norvège, à 70%.
C'est qu'en Suisse, on est tous tellement blindés que de toute façon, 93 $, ça ne va pas changer grand-chose.
Et entre guillemets, celui qui rapporte le moins ?
La France ?
La Chine.
Ah.
Ah oui, la France est à peu près 10 sur 40. Vous voyez, c'est pas si mal. Ouais. Mais les chercheurs se sont interrogés sur effectivement cette observation qui concerne le monde entier, parce que quand il n'y a pas d'argent dans le portefeuille, 40% seulement des portefeuilles sont rendus.
Mais comment on explique ça ?
Alors, on explique ça de deux façons différentes. Il y a bien sûr l'altruisme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand il y a dans un portefeuille une note de course, des clés, un petit peu d'argent...
Oui, mais là, l'altruisme est indexé sur l'argent, c'est ça qui est étonnant.
D'abord, on rend beaucoup, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est quand même 40% au minimum qu'on rend. Et ensuite, la valeur. Pourquoi est-ce qu'on rendrait plus d'argent ? Parce que, quelque part, ne pas rendre, c'est voler.
Oui, d'accord. Et voler... Donc, plus c'est grand, plus la somme est grande, plus on se dit qu'on est en train de commettre un vol.
Et se sentir voleur à 100 $, c'est quand même gênant. Et effectivement, c'est une belle leçon où, finalement, la tentation ne fait pas le larron. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on a l'occasion de voler un petit peu, finalement, on est quand même globalement honnête. Et c'est très optimiste pour les politiques publiques, parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah bah s'il trouve de l'argent, il va le garder ». La réponse est non. Et la preuve, elle est scientifique et encore une fois, à l'échelle mondiale dans 40 pays.
Guillaume de Tonquédec, vous trouvez, on va dire, 30 euros dans la rue. Enfin, un portefeuille. Qu'est-ce que vous faites ?
Je pensais à ça parce que j'ai vu quelqu'un... Je marchais Gare Saint-Lazare et je vois une liasse de billets, mais importante.
Ah, oui.
C'était encore en francs. Hein. Je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Accordéon, s'il vous plaît.
Et j'ai regardé, j'ai vu deux jeunes mecs de mon âge en face de moi. J'ai pris la liasse et je suis allé les voir et c'est de l'argent qu'ils avaient effectivement perdu. Ils m'en ont pas donné un bout. Hein, mais bon,
oh,
merci. Mais j'ai compris. Et le gars était tellement content que je lui rende. Ça devait être une grosse somme d'argent pour lui que j'étais content d'avoir fait ma BA. Je n'ai pas oublié cette histoire.
Voilà. C'est pas bon pour le rôle de psychopathe méchant, ça, hein, Guillaume. Il faut cultiver ce côté un petit peu. Non, vous avez pris le fric et puis voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et Mathieu Noël nous donne rendez-vous tous les jours, vous le savez, sur Europe 1, même le week-end, avec Eva Roque qui n'est jamais bien loin. Idem pour nos journalistes compétiteurs, Mathieu Charrier en l'occurrence, il y a Alain Sirot aussi, Ève Roger ou encore Nicolas Caro. Et on va retrouver maintenant l'acteur Guillaume de Tonquédec à l'affiche de la pièce « 7 ans de réflexion » au Théâtre des Bouffes parisiens à partir du 17 septembre.
Je crois, Guillaume, qu'en plus du théâtre, vous serez bientôt à l'affiche d'un film le 6 novembre, ça s'appelle « Place des Victoires, vous pouvez nous en dire déjà un mot ?
Oui, c'est un premier film de Johan Guillouzouik, un breton, n'est-ce pas ?
Solidarité.
Qui a mis plusieurs années à monter ce projet. En fait, c'est la rencontre d'un homme qui est en train de chuter. Il a, suite à un accident de la vie, il a divorcé, il a perdu son entreprise, sa maison, il n'a plus le droit de voir ses enfants. Et un petit gamin va lui voler son portable dans la rue, il va l'attraper. Et comme l'explique le metteur en scène, il est dans un temps accidentel de sa vie, donc on peut faire des choses un peu plus dingues, peut-être, dans ces moments-là. Et il va séquestrer ce petit gamin pour lui dire « Rapporte-moi ce ce téléphone parce que c'est tout le seul lien qui me reste avec mes enfants, en gros. Et puis, c'est un petit rhum, le gamin. Et ils vont, contre toute attente, créer un lien comme ça et se rendre la vie un peu meilleure, quoi, tous les deux. Et être un peu plus positif à la fin du film qu'au début. C'est une très belle rencontre entre ces deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, quoi.
Mathieu Charrier, notre expert cinéma,
oui.
Vous avez vu ce film déjà ?
On l'a découvert au Festival d'Angoulême. C'est un très joli film.
Très joli film.
Mais oui, parce que c'est vraiment. En fait, les rôles vont s'inverser. Quoi. C'est le gamin qui va devenir l'adulte du duo et qui va l'aider à revoir ses enfants. Et c'est un film. Et on a rarement vu Guillaume de Tonquédec, je trouve, dans un rôle aussi trouble, finalement. Parce qu'au départ, vous êtes très triste, vous êtes abattu, vous ne voyez plus vos gamins. D'habitude, effectivement, dans la série télé ou même dans Roxane récemment, vous aviez des rôles plus comiques. Là, c'est un film plus sombre, même s'il y a des moments très drôles.
On va vers le serial killer petit à petit.
on va vers le rôle de
plus en plus sombre.
Mais c'est un joli film, il faut le noter. Ça sort début novembre.
Ça sort le 6 novembre, exactement. Guillaume de Tonquédec, vous restez avec nous. On l'a dit, vous êtes éminemment sympathique, mais n'essayez surtout pas de sympathiser avec Eva Rock. Là, elle est passée en mode warrior. Elle va vous déchiqueter. Voici le moment sadiculant de notre jeu. Qui veut gagner un mug Mathieu Béliard? Mathieu Béliard qui présente la matinale, hein, le 6-9, avec un brio qu'on salue ici. En hommage à 7 ans de réflexion, la pièce que vous allez jouer à partir du 17 septembre au Bouffe Parisien, Guillaume, un quiz sur l'amour et les relations amoureuses où vous êtes opposé donc à Eva Rock.
Je ne peux pas gagner un quiz comme ça.
Bah pourquoi pas.
Bon, allez-y.
Arrêtez de vous sous-estimer, Eva. Ouais. On commence avec vous, Guillaume de Tonquédec. En amour, les enclitophiles sont les personnes qui ne supportent pas de faire l'amour autre part que dans un lit. Vrai ou faux?
Bah non. Ah, les enclitophiles, il y a un enclos. Alors attendez,
on peut trouver les la racine grecque.
Oh, la vache, c'est dégueulasse. Les enclitophiles.
Regardez la tête de Mathieu Charrier.
Ouais.
Non mais phil, c'est pas phobe, donc normalement c'est.
Oui, mais enclitophile.
Quoi?
Oui, ah bien vu. Bien, ah, il y a un indice dans ce que vient de dire Mathieu Charrier. Effectivement.
Enfile quoi?
Quelle est votre réponse, Guillaume?
Allez, oui.
Eh ben non. Mathieu vous a dit.
Une chance sur
phil, c'est qui aime. Faux. Ce sont les personnes qui ont une attirance envers les femmes criminelles,
voilà,
les enclitophiles.
Ah, génial.
Et libristophile est celle qui est attirée par les hommes criminels. Voilà une information d'importance. Eva Rock, si vous habitez en Gironde, vous pouvez vous inscrire sur Adopte un gilet jaune 33. Vrai ou faux?
C'est vrai.
Comment ça? Mais vous le savez, vous êtes inscrite dessus. Elle est inscrite. Mais vous l'avez dit beaucoup trop vite pour que ça
non,
soit...
Non, parce que je sais qu'il y a eu des clubs de rencontres organisés par les Gilets jaunes.
Eh, c'est ça, si vous cherchez l'amour, si vous êtes dans la région bordelaise et si vous êtes Gilets jaunes, 1500 personnes sont inscrites, dont Eva Rock.
Et ça a marché, il y a eu un mariage. Mais ils ont déjà divorcé. Mais
oui, c'était horrible cette histoire.
Vous êtes bien renseigné sur les sites de rencontres Gilets jaunes.
Ils se sont
hein.
Ils sont mariés et puis en fait, au bout de 3 mois, ils se sont rendus compte que c'était pas possible.
Attention, une question, 3 propositions, vous répondez ensemble. Rosemary et Francis sont américains, mariés, amoureux, ils ont une autre particularité, laquelle ? 1. Ils ont tous les deux changé de sexe au bout de 10 ans. 2. Ils se sont toujours habillés pareil. 3. Ils ne se sont jamais ni vus, ni entendus, ni touchés.
3. Parce que le 1, il faut le faire en même temps, sinon c'est compliqué.
Eh ben, moi j'aurais dit la 1, justement.
Eh bien, vous avez tous les deux tort. 68 ans de mariage, c'est beau, 68 ans de mariage.
Ah oui.
Ils se sont connus au lycée, mariés à l'âge de 19 ans. La mère de Rosemary leur a offert les mêmes chemises. Du coup, depuis, ils ont toujours porté les mêmes habits.
C'est beaucoup moins marrant.
C'est beaucoup moins marrant, mais c'est la vérité. C'est la vérité journalistique qui nous intéresse dans cette émission. C'est Eva qui remporte le quiz.
Ah bon.
Vous remportez donc, Eva, un mug Mathieu Béliard.
C'est qui, ce mec?
Il présente la matinale, Eva, vous devriez le savoir. Il sera à l'affiche de 7 ans de réflexion au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 17 septembre. Guillaume de Tonquédec. Vous connaissez le principe du micro-trottoir, évidemment. C'est pas mal, mais c'est souvent trop monté pour mettre l'invité en valeur. C'est pourquoi on a inventé le micro-trottrash. C'est la même chose, mais sans montage. On a tout laissé.
Guillaume, mon Guédec?
Tonquédec.
Quédec.
Très sympathique.
Il est charmant et il dégage une belle aura.
Bah, il est acteur.
Oh, excusez-moi, c'est mon mari à tous les coups. Ouais, ouais. Oui, j'arrive tout de suite là. J'arrive.
C'est un acteur connu.
Guillaume Guétan Quédec.
Fais pas ci, fais pas ça.
Moi, je trouve bel homme. C'est mon style.
Moi, j'aime bien son côté un peu bobo, aristo. Sors direct là? Ah bon? Non, arrêtez. C'est vrai? Coucou, bisous, bonne journée à vous.
Guillaume.
Oui.
Deux.
Oui, je suis... Attends, excuse-moi, je suis interviewé sur Europe 1. Je te rappelle, dans 2 secondes, je suis à 2 pas de toi.
Guillaume Guétan Quédec.
C'est pas monté, hein, donc. Les gens sont formidables, comme disait Jacques Martin. Chez certaines personnes, accéder comme ça de manière soudaine à la célébrité, ça peut faire vriller. On sent que ça n'a pas été votre cas. Le fait que ça arrive plutôt tard, partir de 40 ans, c'est mieux pour encaisser ce pour genre moi, de notoriété mieux, énorme.
Pour moi, c'était mieux, oui.
À 20 ans, vous seriez devenu un connard.
Peut-être, j'aurais pas été prêt, je crois. C'est bien d'avoir attendu, puis d'avoir eu vraiment très très envie, de voir que ça ne vient pas, mais de pas lâcher la rampe pour autant. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je dis ça pour ceux qui sont en compétition. Et vous allez y arriver. Et donc, d'avoir le temps, puis de garder un peu de recul et d'humour aussi, c'est très important. Garder de l'humour et puis voir un peu comment tout ça se fait, se pratique. C'est bien d'avoir pu observer tout ça en coulisses avant que ça vous arrive.
Eva me dit souvent, j'aurais pas aimé être l'icône que je suis à 20 ans. Alors, vous avez, si je ne m'abuse, Guillaume de Tonquédec, 3 enfants, c'est bien ça ?
Ouais.
C'est la rentrée scolaire. Vous êtes quel genre de papa ? On vous imagine, je ne sais pas pourquoi, peut-être le personnage de Renaud Lepic, qui n'est pas vous évidemment, on vous imagine très impliqué dans l'éducation de vos enfants. Vous leur faites faire les devoirs ?
Je leur fais faire s'ils me demandent. Je vais jamais, non, je vais pas les embêter à leur faire réviser s'ils n'ont pas envie. Et je les aide dès qu'il y a une question précise, j'y vais. Ouais, je m'engage parce que je suis quand même assez souvent absent. Par contre, quand ils ont besoin de moi, je suis là ou j'espère que je suis là. Ouais.
Voilà. On parlait tout à l'heure d'orientation professionnelle. Si jamais l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux vous dit « Papa, j'ai envie d'être comédien comme toi », vous allez l'encourager ou vous allez lui dire « On passe un petit diplôme d'abord, on sécurise ».
Je trouve ça trop difficile, très honnêtement. Je trouve ça trop ingrat, le métier de comédien, si on n'est pas fondamentalement passionné. C'est Michel Bouquet que j'ai eu comme prof au conservatoire. Il dit, si vous avez une seconde de doute, faites autre chose. Et il a raison, Bouquet. C'est trop difficile. Il y a trop de... Enfin, je trouve ça trop ingrat pour encourager un enfant à le faire. Par contre, s'il a vraiment envie de le faire, il faut absolument le faire. C'est tellement génial. Vous avez vu la contradiction.
Oui.
Débrouillez-vous avec ça, les parents qui sont dans ce cas-là.
Ils auront bien noté.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et la compétition reprend pour les journalistes d'Europe 1. Place maintenant à Emmanuel Duteil qui va tenter de convaincre le violoniste Renaud Capuçon qui était invité de Mathieu Noël cette semaine.
La compétition est comme un train de la SNCF, toujours à l'heure. Et c'est justement l'heure d'écouter notre ultime concurrent du jour, et pas des moindres, puisque vous avez face à vous, Renaud, le chef du service économie d'Europe 1, Emmanuel Duteil. On dit souvent que le modèle low cost bat de l'aile, pas dans le ferroviaire, visiblement.
Ouais, alors je vous rappelle, je suis là pour gagner, et je suis là pour sortir.
On a bien compris que vous étiez là, vous n'êtes pas là pour acheter du terrain, comme on dit. Hein.
Il faut que ça mûrisse bien dans votre tête pour que vous compreniez tout ça. Allez, 26 millions de personnes dans les trains cet été, c'est tout simplement du jamais vu à la SNCF. C'est un record, et on le doit notamment à ces fameux Ouigo. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous savez, ce sont ces fameux TGV low cost de la SNCF. Vous les reconnaissez si vous allez dans les gares, ils sont bleu turquoise et rose. On risque pas de les rater.
Donc eux, c'est les low cost. Très bien. Et donc, en quoi c'est un carton ?
Eh bien, à eux seuls, ils ont représenté 20% des voyages en TGV cet été. Ils étaient quasiment tous bondés. Et la prouesse de Ouigo, c'est de faire venir ou revenir des gens qui ne prenaient pas ou plus le train. La raison est simple, c'est pas cher. À partir de 19 euros pour les adultes et 8 euros, ça c'est un prix fixe pour les enfants. Et ça, Rachel Picard, la patronne de la grande vitesse à la SNCF, n'en est pas peu fière.
Cet été, 2/3 des clients de Ouigo ont payé moins de 25 euros le voyage. 25 euros un voyage en TGV en France, on peut dire que c'est pas cher.
Ça c'est sûr, ça fait rêver, 25 euros, parce que quand même on va bien le reconnaître. Jusque-là, quand on prenait le TGV, on avait plutôt l'impression de s'acheter un sac Vuitton ou au moins de se couper un bras en même temps.
C'est vrai.
C'est pas faux. Mais comment ils arrivent à faire baisser autant les prix ?
Eh bien c'est du low cost, comme vous l'avez dit. Donc tout simplement comme pour l'avion, on met plus de monde dans chaque rame. Il y en a 600 contre 350 à 500 dans une rame normale. Comment c'est possible ? Tout simplement, il n'y a pas de voiture barre. Ce sont des rames qui ont aussi beaucoup plus roulé, donc elles sont amorties. Ces trains ne roulent pas en plus aux meilleures heures. On réserve seulement sur Internet, ça permet de faire là encore des économies. L'embarquement se fait sur des quais, alors même si maintenant ça part des gares principales de Paris, c'est quand même à l'autre bout de la gare pour y aller, mais bon, ça vous fait faire du sport. Il faut arriver au moins 30
faut
minutes.
Bon
ah bah oui, c'est quand même. Mais attention, il faut arriver au minimum 30 minutes avant. N'oubliez surtout pas votre carte d'identité, sinon vous restez à quai. Il faut payer pour une prise. Il faut également payer si vous avez de gros bagages. Vous avez le droit à un petit bagage, mais comme celui qu'on mettrait en cabine dans l'avion, mais pour le plus gros, eh ben vous payez. Mais force est de constater que ça fonctionne parce que ça répond à un besoin. La moitié des gens qui ont pris Ouigo cet été n'auraient pas pris le train s'il n'y avait pas eu une telle offre. Et 20% ne seraient même pas partis du tout. Donc ça, c'est quand même un point important. Du coup, la SNCF va encore augmenter les destinations. Aujourd'hui, vous en avez une quarantaine. Ils vont arriver jusqu'à une cinquantaine de destinations. Bon, il manque quand même une chose pour que le carton soit total. C'est vous, Renaud Capuçon, dans ce train. Un grand concert dans une des rames. Ils vous attendent à la SNCF. Bon, gratuit, vous avez compris, ils n'ont pas de sous. J'ai compris.
Ça me fait penser. Qu'est-ce que vous pensez, Renaud, de cette initiative de mettre des pianos dans les gares et à chaque fois qu'on va dans une gare, maintenant, il y a toujours quelqu'un qui vient jouer un peu de piano.
Non,
alors le niveau
qui
est...
vient massacrer un morceau.
Non,
j'adore la réponse de Fabrice Lucchini,
pas toujours.
Qui dit
qui vit avec beaucoup d'humour, mais ils nous emmerdent, les mecs qui jouent des pianos. On n'a pas envie d'entendre. Non, je pense que c'est super sympa pour plein de gens. Moi, c'est vrai que ça me... De façon générale, la musique imposée partout, moi, en tant que musicien, ça me dérange. Mais dans les ascenseurs, ça me dérange. Le matin, dans les hôtels, au petit déjeuner, ça me dérange.
Les ascenseurs qui donnent une bien mauvaise image de la musique classique, en plus. Hein, et les salles d'attente des médecins.
Mais voilà, non, c'est super sympa pour, je pense, les gens qui ont envie de jouer du piano. Oui.
Et la fête de la musique, alors, le 21 juin, le fait qu'on impose...
C'est le seul jour où je joue pas, moi.
Ah, voilà.
C'est vrai, c'est un jour férié pour moi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et oui, de retour avec l'équipe et Sauvage, notre nouveau rendez-vous de l'après-midi entre 16h et 18h avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Rock, les journalistes d'Europe 1 prêts à en découdre hein, à coup de chronique, dans une ambiance qui reste bon enfant, vous l'imaginez bien. Alors on va retrouver durant cette prochaine heure Jérôme Lacroix pour parler des footballeurs jamaïcains, Axel de Tarlet pour parler écologie, les Français sont prêts à changer sauf pour la voiture, et puis avec Olivier Pouls, et puis on va apprendre à faire des nuggets, Anis Mida sera là aussi, hein, Tarissa sur les nouvelles technologies. Côté invité, il y aura un humoriste pour commencer, Jérôme Commandeur, qu'on retrouve tout de suite face à un autre humoriste, notre humoriste à nous, Mathieu Noël.
Rayer, choquer, grincer, telle est la vocation de l'humoriste, mais c'est aussi, depuis que je les ai mis en compétition, la raison de vivre de nos journalistes. Croche-pattes dans l'escalier, empoisonnement à l'imodium à la cantine, ébouillantage à la machine à café, désormais tous les moyens sont bons pour l'emporter. Jérôme, voici notre premier compétiteur du jour, Anis Mbida, qui, je vous le dis tout de go, Jérôme, n'aime pas trop les humoristes depuis qu'Harry Habitant s'est foutu de sa gueule lundi dernier.
L'idée, c'est de donner l'option à l'utilisateur. Plus de 600 heures par an.
Alors c'est Zizou, ce zon avec les ans.
Oh, une toute petite faute de liaison, mon cher Anissé, c'est avec un grand plaisir que nous vous t'écoutons à présent.
Je vais essayer de ravaler mes liaisons. Donc, c'est la rentrée, je vous propose un sujet d'actualité. Vous vous souvenez certainement de tous les débats qu'il y a eu à l'époque sur les ravages que fait le langage SMS sur l'orthographe, mm-hmm. Vous vous souvenez, hein ? Et bien maintenant, le débat est en train de se déplacer sur les assistants vocaux. Vous savez, les Siri, OK, Google, Alexa, etc. Puisqu'ils auraient tendance à nous transformer en des espèces de rustres mal polis. Alors, c'est une étude du MIT qui le dit. Elle vient de montrer qu'on aurait tendance à être beaucoup plus désagréable quand on parle à un assistant personnel ou à un assistant vocal, vous savez, votre téléphone ou l'enceinte connectée. On a tendance à lui donner des ordres, à être extrêmement directif, hein, allume la lumière, mets de la musique, est-ce qu'il va faire beau, etc.
Ce n'est pas un être humain, donc oui, on n'est pas obligé d'utiliser de formules de politesse pour dire mon cher assistant, cher Alexa, serait-ce en effet de ta volonté de bien vouloir allumer la lumière.
Quand on a des enfants et qu'on a passé notre temps à lui dire le mot magique, dis merci, etc., eh bien on a des petits-enfants qui deviennent ensuite des espèces de tyrans devant les machines et qui disent plus merci à personne. Et ça devient un véritable problème.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas obliger les fabricants à modifier leurs enceintes pour inciter les enfants à dire merci s'il te plaît, sinon ça ne marche pas, ça serait bien.
Exactement, c'est ce qu'ont exigé plusieurs associations de parents, et maintenant il y a des services qui refusent de s'exécuter si on ne demande pas poliment. Et chez Google, ils ont appelé ça le mode punitif. Ça veut dire que tu as oublié le mot magique, donc je ne marche pas, je n'allumerai pas la lumière.
Ils reconnaissent si c'est un parent qui parle ou un enfant.
Non, c'est pour tout le monde.
Nous aussi, on est obligé de
donner l'exemple. Bah, oui.
Il faut donner l'exemple, vous avez raison.
C'est comme le téléphone portable. Si vous l'utilisez, vous demandez aux enfants de ne pas l'utiliser, ou si vous fumez, vous demandez aux enfants de ne pas fumer, c'est très compliqué pour l'éducation. Mais seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce mode punitif, exactement comme vous, parce qu'ils se disent qu'ils ne voudraient pas accréditer l'idée que la machine peut refuser d'obéir à un être humain.
Oui, ça serait le début
et qu'elle est capable de faire du discernement entre tiens, est-ce que c'est poli, c'est pas poli, etc. Après tout, on ne dit pas merci à son frigo, on ne dit pas s'il te plaît à l'ascenseur, etc.
Moi, je dis régulièrement merci à mon
frigo.
Quand
vous sortez votre île flottante.
Oui, pour Jérôme Commandeur.
Évidemment.
Merci de donner cette île flottante à Jérôme Commandeur.
Et c'est pour ça qu'ils ont une autre approche. Maintenant, ça c'est chez Amazon que ça se passe. Ils ont plutôt un mode récompense. Et donc, il dit à la fin merci de m'avoir demandé gentiment. Au lieu de ne pas s'exécuter quand on est mal poli, il dit à la fin merci de m'avoir demandé gentiment. Vous êtes très aimable, vous êtes très agréable. Et c'est important. C'est un débat en ce moment sur ces machines. Comment les rendre
Jérôme, comment vous parlez à votre assistant vocal, Jérôme ? J'ai très peur.
Comme je parle à tout le monde comme à des merdes, qu'ils soient humains ou à des machines, j'en ai rien à
foutre. C'est la même chose pour vous. Hein.
C'est la même chose.
Mais ça, c'est le futur ou c'est aujourd'hui ça, Nicolas ?
Ça se passe aujourd'hui. On est en train de se poser la question de comment programmer ces assistants personnels parce qu'on s'est rendu compte que ça va assez loin. Regardez les mails, par exemple. Il y a la correction automatique. Aujourd'hui, quand vous avez un mail, il propose de répondre automatiquement à votre place.
Comment
ouais,
ça ?
Super. Quand vous répondez à un mail sur Gmail, par exemple, il vous dit ouais, super, ok, ça va, etc. Et donc, du coup, on ne fait même plus attention. On appuie sur le bouton, il répond à notre place. Et à force d'avoir des interactions automatiques et des machines qui répondent à notre place, on finit par oublier ce...
Ce petit cordialement, je vous souhaite une bonne journée, bisous,
veuillez
bisous.
Veuillez agréer mes, les sentiments des
cordialement, bisous, bisous, c'est pas pour la même personne.
Non, c'est pas pour la même personne.
Logiquement, votre contrôleur fiscal, c'est plutôt
oui. D'ailleurs, il faut
cordialement.
Que je...
Oui, pensez-y. Faut... Oui. Merci Anis Mbida, qui, je le signale incidemment, car on a reçu beaucoup de messages, n'est pas célibataire. Il a d'ailleurs élégamment souligné la semaine dernière une Bolsonaro, comme on appelle ça dans le petit milieu de la classe.
Il est mort en 1983, ma femme était même pas née.
On l'embrasse. Vous la remerciez pour ce beau collier de nouilles qu'elle nous a offert.
Ma et son premier jour de classe. Noël, qui est née la même année.
C'est vrai, on voilà, est la même année, c'est vrai. Je suis plus très jeune, mais je me vois toujours comme quelqu'un de très jeune.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et on continue à faire le plein de bonne humeur tout en se cultivant. Et on, bien sûr, on va retrouver Mathieu Noël, sa complice Eva Rock. Et maintenant, à 17h14, l'acteur Guillaume de Tonquédec à l'affiche d'une pièce à voir jusqu'au 5 janvier 2020 au Théâtre des Bouffes parisiens. 7 ans de réflexion.
7 ans de réflexion et pourtant, il ne vous faudra pas plus de 7 secondes pour acheter vos places sur Billets Réduc. Guillaume de Tonquédec est notre invité cet après-midi. Vous êtes donc à l'affiche de la pièce mythique de Georges Axelrod. Les représentations débutent le 17 septembre au Théâtre des Bouffes parisiens. Pièce mythique car, outre le succès à Broadway, la pièce avait été adaptée au cinéma par Billy Wilder en 1956 et le film, ou en tout cas une des scènes de ce film, est encore plus légendaire que la pièce. Alors, on a tous nos icônes en matière de glamour, de perfection féminine. Mathieu Charrier a les siens.
Zaya, il faut reconnaître oui. qu'elle a un physique qui sur grand écran est tout simplement fascinant.
Moi, c'est plutôt Marilyn Monroe. Je suis plus classique. Et c'est en effet dans ce film, adapté de la pièce que vous jouez, que soudain, passant sur une bouche d'aération de métro,
ah là là.
Comme dit pudiquement Mathieu, ah là là, oui, la robe de Marilyn Monroe se soulève et on découvre ses sublimes et interminables gambettes. Sauf que le film ne reflète pas la pièce. La pièce est beaucoup mieux que le film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Parce que Billy Wilder a été contraint de s'auto-censurer. Il y avait une loi sur la censure, le code Hays aux États-Unis, du nom d'un monsieur Hays qui interdisait qu'on parle, qu'on fasse l'apologie de l'adultère. C'est très embêtant parce que la pièce ne parle que de ça.
Oui,
qu'on montre certaines parties du corps, qu'on montre un baiser langoureux. L'homosexualité, n'en parlons pas, était absolument proscrite. Donc tous ces sujets-là se sont arrivés dans la figure de Billy Wilder, adaptateur, qui a adapté la pièce avec Axelrod, mais il a été obligé dans le film, ils ne font que se tourner autour, mais ils ne consomment jamais. C'est pour ça que j'ai refusé de faire le film et que j'ai dit oui à la pièce.
Et je vous reconnais bien là.
Quand vous verrez les Dufour, vous comprendrez pourquoi j'ai dit oui.
Et donc là, ce que les spectateurs vont voir au Théâtre des Bouffes parisiens à partir du 17 septembre, c'est la version non censurée. La totale.
Qui est beaucoup plus intéressante. Et malgré tout, on a gardé quelques idées absolument sublimes de Billy Wilder parce qu'il a essayé d'enrichir son scénario, cette fameuse scène mythique. Alors la scène mythique, bon, je vous laisse, il y a une surprise, vous verrez par rapport à cette histoire de robe qui se soulève, mais tout a lieu dans un appartement, donc évidemment il n'y a pas de bouche d'aération de métro,
non.
Mais ça a été rajouté par Billy Wilder.
Il y a un Dyson qui souffle.
Vous verrez.
Je ne sais pas, j'imagine, voilà. Je cherche à trouver. Eva.
Non, parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire le texte de la pièce, puisqu'on ne peut pas vous voir encore, vous êtes toujours en répétition. Et alors ce qui est étonnant, c'est que quand on lit vos passages, en fait on entend votre voix.
Ah.
Donc on a l'impression qu'elle a été écrite pour
vous. Vous cirez les pompes encore mieux que moi, Eva.
Mais non, mais écoutez, incroyable. C'est pour donner envie aux gens d'aller voir la pièce.
Il prouve en tout cas qu'on peut devenir très célèbre et rester hyper sympa. Il sera à l'affiche de 7 ans de réflexion au Théâtre des Bouffes parisiens à partir du 17 septembre. Alors, on ne le sait pas forcément, mais avant de devenir célèbre grâce à Fais pas ci, fais pas ça vers l'âge de 40 ans, vous aviez déjà une belle carrière au théâtre notamment. Et vous dites cette chose qui, chez beaucoup d'acteurs, sonnerait faux cul, mais chez vous, on sent que c'est vrai. Vous dites, je dois énormément à cette série, au personnage de Renaud Lepic, mais j'aurais pu tout aussi bien faire une belle carrière de comédien de théâtre sans être très connu, et j'en aurais été pas moins heureux. C'est ma passion. Cette simplicité, cette passion pure pour le jeu, délestée de toute envie de notoriété, on sent que c'est ça la clé de votre succès, en fait.
En fait, quand on est acteur, enfin, moi, ça m'est tombé dessus, c'est une passion. Donc, je vais vous parler, avant de devenir comédien, j'ai fait des études de sciences éco anglais. Et quand on joue un rôle au théâtre, on peut faire des carrières absolument formidables en jouant tout Shakespeare, Molière, Musset, bon, et ne jamais être connu, c'est-à-dire jamais être populaire, tout simplement, c'est parce que c'est mathématique, voilà. Une salle de théâtre ne fait jamais que 500, allez, jusqu'à 1500 places, ce qui est déjà énorme. Alors que quand vous êtes dans une série à la télé ou au cinéma, un film qui marche, tout d'un coup, vous touchez des millions de personnes, vous entrez chez les gens. Donc, c'est ça la différence. C'est que, par contre, la façon de travailler et la passion du jeu reste la même.
Ouais. Mais vous, en revanche, vous n'avez, contrairement à certains acteurs qui font acteur pour une quête de notoriété, vous, on sent que vous n'avez jamais cherché à être connu, vous cherchiez à être comédien.
Non, mais je voulais que ça marche, je voulais jouer des beaux rôles, en tout cas, que ça marche, c'est ça que je veux dire, je voulais réussir, c'est-à-dire jouer des premiers rôles, je rêvais de ça, quoi. Donc je suis très content que ce soit arrivé.
Eva Rock.
Et jouer un serial killer pour un type gentil comme vous, est-ce que
ça serait
une volonté, un désir?
Non, j'aimerais beaucoup en plus, c'est vrai, non, je voudrais. Justement parce que On parlait de Billy Wilder, il parlait de Jack Lemmon en disant ça a été mon monsieur tout le monde. Ils ont fait 7 films ensemble. Mmh. Et le monsieur tout le monde, c'est une notion très intéressante. Regardez la tête des serial killers, ceux qu'on a en tête. Ils ont pas forcément l'air méchants, quoi. C'est pour ça que ce serait très intéressant. J'adorerais jouer un personnage comme ça. Parce qu'on fait tous des cauchemars et qu'on est tous beaucoup plus mystérieux qu'on veut bien le montrer. Même les chroniqueurs ici ont fait des cauchemars cette nuit en pensant au classement de tout à l'heure. Et du coup, ils sont arrivés un peu, voilà, moites.
Moites.
Pardon,
je sens Nicolas Carreau très.
Non, je me
très
que Guillaume de Tonquédec, ça fera un bon Dexter, en fait.
Bah, tout, ouais, exactement.
Mais vous ouais, aussi, y a ça. Hein, Nicolas.
Alors, vous êtes Guillaume au Bouffe Parisien à partir du 17 septembre. Cette pièce, 7 ans de réflexion, c'est une comédie, on le disait, sur l'adultère et sur la tentation. Une question très pragmatique, est-ce que tous les couples peuvent aller voir cette pièce sans danger? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Mathieu Charry me disait en antenne, par exemple, j'hésite.
Il faut au contraire. Justement, je me posais la question.
Hey, est-ce que
je pense qu'on va beaucoup rire. Et puis c'est après, en sortant au restaurant, que les choses vont commencer à...
Il faut peut-être...
Donc il vaut mieux manger avant.
Voilà, il vaut mieux manger avant et ensuite on rentre et on dort directement.
Il y a un très bon restaurant en face des Bouffes Parisiens, je vous conseille. Allez-y avant. Non, il faut y aller. Ouais, il faut y aller en couple, évidemment. C'est très amusant parce que ça parlera à tout le monde, et du côté féminin et du côté masculin. Quoi. Voilà. C'est toutes les interrogations qu'on a tous. Donc c'est pour ça que c'est très très drôle et réussi et toujours contemporain.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Oui, l'équipée sauvage. L'émission se poursuit avec Mathieu Noël, bien sûr, Eva Rock. Et maintenant, à 17h26, Olivier Pouls. On va noter sa bonne recette du jour.
Voici Délice in Extremis. Aujourd'hui, Olivier, vous nous préparez des nuggets. Est-ce qu'elles seront meilleures qu'au KFC?
Alors, l'idée, c'est de tailler un costard au père dodu et donc de s'y mettre soi-même. Et qui m'a inspiré, figurez-vous? Eh bien, c'est vous, mon cher Mathieu, car je sais que ce week-end, vous avez fait des nuggets de poulet.
C'est pas faux, et c'était très bon.
Ils avaient l'air délicieux. Vous les avez fait vous-même, bien sûr. Vous ne les avez pas décongelés ni mont de boîte.
Bien sûr que non, sinon, ce n'est pas des nuggets maison.
Donc, vous êtes allé acheter des jolis filets de poulet chez votre volailler. Vous les avez découpés en morceaux, et puis vous avez fait ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. Une panure à l'anglaise, ça marche pour plein de choses. C'est une règle de trois assiettes. Une première de la farine, une deuxième des œufs battus et une troisième de la chapelure.
Alors ça, moi j'ai remplacé la chapelure par les cornflakes, mais ça
et
vous
bien,
pouvez.
Voilà, l'idée c'est que c'est sur cette troisième assiette qu'on va pouvoir s'amuser, qu'on va pouvoir twister nos nuggets. Et là vous avez opté pour des cornflakes. C'est une excellente idée, vous pouvez faire ça. Vous auriez pu aussi rajouter quelques épices pour donner plus de goût. Vous auriez pu rajouter des épices mexicaines, du curry par exemple.
Pourquoi le mot épice fait-il rire Eva Rock?
Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup rire visiblement.
Chacun a son humour.
Jérôme Commandeur. C'est vrai, mais ce qui est étonnant c'est qu'elle a beaucoup aimé votre spectacle Jérôme. Si tu veux, je fais un rapport de cause à effet et je m'inquiète un peu pour vous du coup. Olivier Pouls.
Bon, alors en dehors de vos cornflakes, voilà une autre idée, c'est le fromage. Vous pouvez remplacer la chapelure par du fromage, vous mettez un petit peu de chapelure et vous mettez du parmesan dedans, vous mettez du comté, vous mettez du gruyère râpé. Et en fait, l'intérêt, c'est que l'œuf va permettre à tout ce fromage et à cette chapelure de coller. Et après, bien sûr, dans une poêle avec de l'huile bien chaude, vous allez réchauffer vos nuggets. Mais au moins, vous aurez des nuggets qui seront 100% poulet et pas avec 40% de poulet comme ceux qu'on achète de manière industrielle.
Est-ce qu'on cuit le poulet avant ou pas?
Non, poulet cru, effectivement, on le passe directement donc dans ces trois assiettes. La farine pour permettre à l'œuf de coller l'œuf et ensuite votre petite chapelure originale.
C'était Délice in Extremis. Merci Olivier Pouls.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
L'équipe est sauvage, c'est donc se détendre tout en se cultivant avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock, mais aussi l'équipe est sauvage, c'est une compétition, ne l'oubliez pas, entre les journalistes d'Europe 1. Objectif, convaincre l'invité de Mathieu Noël. Et maintenant, c'est au tour d'Axel de Tarlet de défendre son sujet. Il est face à la grande Sophie.
Axel de Tarlet compte beaucoup sur ce championnat interne pour redorer son blason. Et comme il sait que le vote de l'invité compte triple, parfois il va un peu loin, comme lundi devant Jérôme Commandeur.
Ah, j'essaie de rendre sexy ma démonstration.
Mais vous êtes super sexy, Axel.
Mettez votre pantalon d'ailleurs, c'est filmé maintenant.
Axel, votre pantalon est bien monté. Je vous laisse présenter votre sujet du jour.
Voilà, alors c'est une enquête sur... on a interrogé les Français pour savoir quels sont les gestes qu'ils sont prêts à faire pour sauver la planète, puisqu'on ne parle plus que de ça maintenant, de sauver la planète.
Ça semble vous agacer.
Non, mais oui, parce qu'il y a un côté mode. Et puis il y a un côté, on attend tout de l'État. Mais en fait, on n'attend rien de soi-même. Alors justement, quels sont les gestes que nous sommes prêts à faire? C'est très intéressant. Alors ça commence doucement, on peut tous faire le test. Hein. Êtes-vous prêts à éteindre la lumière en sortant d'une pièce?
Oui, ça, j'espère bien.
99% oui, voilà. Arrêtez l'eau en se brossant les dents.
Oui,
98.
Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de rouvrir l'eau juste un
un peu avant d'avoir fini. Et ça me rend fou.
Donc on commence à perdre Mathieu Noël, vous voyez, dans les bons gestes.
Est-ce que vous vous lavez les dents à l'eau tiède, peut-être ?
Non, jamais, jamais de la vie. Je déteste les gens qui se lavent les dents à l'eau tiède, je le dis. Sauf s'ils sont des auditeurs d'Europe 1.
Alors, proposition suivante, qui a l'air facile, mais qui est un peu plus compliquée. Acheter des produits de saison.
Ça veut dire renoncer aux tomates l'hiver.
L'hiver, vous savez ce qu'il y a, les produits de saison, ben, je vais vous le dire, ça va pas être fun. Hein. Betterave, chou-fleur, topinambour et brocoli, voilà.
Oui.
Hein,
bon. Eh ben oui, mais oui,
mais la betterave c'est super bon.
Voilà. Ouais, et le brocoli aussi. Donc betterave le lundi, chou-fleur le mardi, topinambour le mercredi. Bon, d'accord. Alors ensuite. Éviter les produits plastiques à usage unique. 95% de oui. Ce qui est amusant, intéressant, c'est la rapidité avec laquelle certains concepts s'ancrent dans la population. Il y a un an et demi, on a commencé à parler des plastiques à usage unique à l'été 98, quand sur la télé anglaise, il y a eu une tortue avec une paille dans le nez. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il a fallu quelques semaines à la Commission européenne pour voter l'interdiction définitive des plastiques à usage unique. C'est pour un peu plus tard, vous voyez, on a encore le droit.
Mais déjà, les pailles sont interdites. Vous avez cet été dans votre Mojito. La paille était parfois même en carton ou voire en sucre, comme ça on pouvait la manger en plus.
Encore mieux. Et bien même nous, sur les tournées, notre tourneur nous a offert une gourde.
Et oui. Et vous savez que notre employeur ici nous a offert aussi une gourde que je n'ai pas encore utilisée.
Et des mugs. Vous avez deux avec moi.
J'embrasse notre employeur quand même.
Alors, je vous ai fait une super vanne, vous m'avez pas entendu.
Non mais on l'entendra demain, c'est le principe de l'émission.
Sur votre tournée, êtes-vous prête à prendre l'avion? Là, on a envie de dire oui, mais ne plus prendre l'avion. Il y a quand même 65% de oui. Mais il y a des nouveaux concepts. Par exemple, je suis sûr que l'enquête a été faite en août. Mais par exemple, si on la faisait maintenant, parce que je reviens sur la rapidité avec laquelle les consciences évoluent, c'est on s'est rendu compte de la dangerosité, du côté toxique du textile. Quand on nous dit que là, vous savez, la mode de la fast fashion, j'ai lu ça, un vêtement maintenant est acheté et n'est porté en moyenne que 7 fois. Oui. Et les vêtements, c'est un tiers de la pollution dans les océans. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les lave dans la machine à laver, il y a des microfibres synthétiques qui partent dans l'eau et qui se retrouvent dans les océans. Bref, vous voyez, tout ça pour dire que ça va très très vite. Et je termine effectivement, le seul truc qu'on ne sommes pas prêts à abandonner, c'est êtes-vous prêt à renoncer à une voiture individuelle? Alors, on a quand même 53% de oui, mais on a quand même 47% de non. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, et on l'a vu avec le gilet jaune d'ailleurs, c'est parti d'une hausse des taxes sur le carburant, on dit que la voiture individuelle, c'est quand même symbole de la liberté, synonyme de la liberté, et c'est quelque chose, quand même la liberté, y renoncer, c'est un peu...
Mais ça dépend où on habite aussi, parce que quand on habite une grande ville, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Bon, moi j'aime bien les trottinettes, je suis un peu la seule, mais bon, voilà.
Dans Paris, vous êtes d'accord avec les trottinettes dans Paris ?
Moi j'aime bien.
Ça vous plaît ?
Et puis d'ailleurs, j'ai fait tout mon mix... quand j'allais au mix, en fait, de mon album, j'avais ma trottinette. Je l'ai tellement utilisée que je l'ai cassée. Mais j'adore ça, c'est fun quand même.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Il est 17h42, nous sommes toujours avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Rock, et puis la grande Sophie, invitée cette semaine à nous parler de son nouvel album.
Et les souvenirs qui tapent.
L'album s'intitule « Cet instant » et vous vous la pétez un peu, ma chère grande Sophie, puisque vous dites que sur cet album, vous êtes passé de la guitare, votre instrument, au piano. Vous avez acheté un piano, un instrument que, je vous cite, vous ne maîtrisez pas du tout. C'est vous qui jouez du piano sur l'album ou pas ?
Sur trois titres. Mais ce qui m'intéressait justement, c'est que c'était le moteur pour moi d'arriver sur un instrument que je ne connais pas, mais toutes les notes sont affichées devant moi. Je pose mes doigts sur les touches et puis il y a un son. Et on se dit vers où je pourrais aller. Et c'est son instinct et son imagination qui se met en route. Moi, j'adore ça, garder une espèce de fraîcheur. Et aussi, je trouve que quand on découvre un instrument, il y a une naïveté. Et alors, je fais... certainement plein d'erreurs. Si un pianiste averti ou un virtuose écoute ça, il va dire « Oh là là, il va être angoissé peut-être. »
Mais... Très franchement, atteindre un tel niveau au piano si vite, quand on pense qu'Eva entame sa 12e année de piano,
c'est vrai.
C'est bon. Je veux dire, on n'est pas tous égaux devant Dame Nature et devant le talent.
Je me suis laissée aller aussi et voilà ce que ça a donné. Quoi. Ouais.
On disait tout à l'heure, la grande Sophie, que vous étiez une artiste inclassable, atypique, qui n'entre en tout cas dans aucune case. Il y a une case supplémentaire que vous ne cochez pas, c'est la case showbiz. Je me souviens d'une de vos chansons sur le précédent album qui disait « Je n'ai pas d'amis dans le show business, complètement à l'ouest, je suis dans les choux. »
Je croise des gens remplis de promesses, ils se font la bise, ils ont rendez-vous, voulez-vous venir boire un verre?
Vous êtes la Francis Cabrel au féminin.
Peut-être pas.
Si.
J'ai pas sa moustache.
Par le talent. La moustache en moins, évidemment. Oh, ne me faites pas passer pour un goujat.
Non, mais bah, non, en
ce
fait,
côté hors du showbiz.
Bah, je suis pas, c'est vrai que c'est pas trop mon truc les soirées parce que j'ai pas forcément les codes et puis j'ai des anecdotes rigolotes. Je me souviens, j'avais fait un duo avec Régine. Elle nous avait invités donc dans sa boîte de nuit. Et puis il y avait tout un tas de personnalités. Et moi, quand j'arrive quelque part, j'ai tendance à dire bonjour et au revoir, chose qu'il ne faut absolument pas faire quand on sort dans des soirées showbiz. On dit surtout pas au revoir, on s'éclipse. Mais moi, je fais le tour de tout le monde et je dis au revoir.
Bah vous êtes poli, quoi, en fait.
Oui. Donc voilà, j'ai pas les bons codes, mais c'est amusant à regarder en même temps.
Face à vous, Sophie, elle non plus, la gloire et le succès ne l'ont pas pervertie. Eva Rock, vous suivez, vous pensez à quoi là?
Vous savez, je pense à Rabbi Jacob quand il est dans l'usine de bonbons là.
Super, alors ouais. Reconcentrez-vous Eva, ressaisissez-vous parce que là on ne plaisante plus, c'est l'heure de notre grand jeu. Qui veut gagner un thermos Sonia Mabrouk? Sonia Mabrouk, star de la matinale d'Europe 1, de vous retrouver l'interview politique à 8h15 le matin. Quiz thématisé, évidemment, comme nous vous recevons la grande Sophie, on a choisi de poser des questions sur tout ce qui est petit.
Ah.
Passion de l'esprit de contradiction qui nous anime. Chaque bonne réponse vaut un point. Qui repartira avec le thermo Sonia Mabrouk qui émet le jingle européen à chaque gorgée? Bonne chance à vous deux. La grande Sophie, il va falloir le créer ce truc-là.
Oh oui.
La grande Sophie, qui est le plus petit? Napoléon ou Demis Roussos?
Napoléon?
Et non, Demis Roussos, 1m67 pour Demis. Et oui, Anne Le Gall semble... Désolé si c'est votre idole, mais question. Napoléon faisait 1m69, ce qui était assez grand pour l'époque. Eva Rock,
oui.
La plus petite vigne du monde, ça c'est une question 20 pour vous, la plus petite vigne du monde apparaissant officiellement sur un cadastre appartient au Dalai Lama. Vrai ou faux?
Oh là, aucune idée.
Mais la plus petite... C'est pas la question, ça, c'est vous me répondez vrai ou faux?
Non, j'y faux.
Vous dites faux.
Oui.
Eh bien, une fois de plus, vous avez tort, puisque c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais en plus, elle a été léguée par l'abbé Pierre. Située en Suisse, elle a été la propriété de l'acre. Bon, non, ça, c'est pas bon.
Si,
pas...
déraciné des pas... ailes il y a 2 ans. Non, mais je vous assure.
Peut-être, mais vous ne marquez pas le point à contre-temps.
Non,
ça ne fonctionne
sûr,
pas.
Non, mais je comprends bien.
Elle a été, cette vigne, la propriété de l'acteur Jean-Louis Barrault. Elle fait 1,6 mètres carrés. Oui. Tous les ans, 1000 bouteilles sont produites, mélangées avec une autre cuvée. Le tout est vendu à
J'ai
des
cru
heures de charité.
La plus petite vigne, un pied de vigne.
Non, Eva, n'essayez pas de contester le règlement du jeu, ça ne fonctionne pas. Bon. Attention, vous répondez ensemble. Une question, 3 propositions. Tout le monde connaît l'empereur romain Caligula, mais ce n'est pas son vrai nom. Que signifiait Caligula?
Vous n'avez pas 3 propositions?
Ah oui,
là
c'est ça, faut
exactement.
Le dire.
Exactement. Mais en fait, j'étais en train de relire la question pour voir si elle fonctionnait. Oui, oui. Que signifie Caligula?
Alors,
1. Petite frayeur. 2. Petite sandale ou 3, petite coquine?
Comme on parle d'empereur, j'ai envie de dire petite sandale.
Réponse numéro 2, petite sandale. Caligula, selon vous, ça veut dire quoi, Eva?
J'aurais dit la première, la petite peur, c'est ça?
La petite frayeur.
La petite frayeur, ouais.
Comme quoi, vous avez quand même un esprit de déduction assez pourri, puisque vous avez faux. C'est...
On a tous faux.
Le point, non pas du tout, vous remportez le point à la grande Sophie. Caligula signifie la petite sandale. Quand il était enfant, il accompagnait son père, le général Germanicus, sur les champs de bataille. Il était habillé en petit soldat avec des petites sandales, d'où ce surnom.
J'ai tout de suite imaginé comme ça, moi je le voyais.
Oui, voilà. Je sens que vous avez anticipé.
Les petites sandales.
C'est donc la grande Sophie qui ne boira plus jamais comme avant la gourde isotherme Sonia Mabrouk. Bravo, allez pour vous. Fuselée élégante, le thermos Sonia Mabrouk vous accompagnera dans tous vos déplacements tout au long de la journée. Merci qui? Merci Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Chaque jour de 16h à 18h avec Mathieu Noël, on fait le plein de bonne humeur, on apprend, on se cultive et surtout on se détend, vous l'avez compris. Eva Rock n'est jamais bien loin, l'invité aussi, en l'occurrence la grande Sophie est toujours là. Et puis nos journalistes compétiteurs d'Europe 1 qui continuent de défendre leurs meilleurs sujets, le but étant d'être élu chroniqueur du jour. Et maintenant c'est Jérôme Lacroix qui entre en piste.
Son total de points, 2. Ne reflète pas sa qualité. Journaliste sportif polyvalent, il excelle aussi dans l'humour et la galéjade.
L'OM en ce moment, c'est un peu olympique du nez.
Oh.
Merci.
Bref, mon cher Jérôme Lacroix, je compte sur vous pour rebondir. Et pour ce faire, c'est sur la Jamaïque que vous avez misé.
Trouble is once again brewing between the senior reggae girls.
Alors ça fait la une des rubriques sportives, ça c'est un extrait de la télé jamaïcaine de la nuit. Les reggae girls, comme on les surnomme, les footballeuses de l'équipe nationale jamaïcaine, ben elles sont en grève, ça y est. Alors pourquoi? Ben ça fait près de 2 mois que la Coupe du monde féminine de foot est finie, vous en souvenez peut-être, c'était en France. Et ben ça fait 2 mois que ces filles, ces jamaïcaines qui ont participé à la Coupe du monde, elles attendent tout simplement d'être payées pour leur participation. Pire, elles attendent d'être payées pour la période janvier-août 2019. Donc ça fait 8 mois. Et elles ont décidé, voilà, elles ne joueront plus aucun match en sélection tant qu'elles n'auront pas touché leur dû.
Et donc elles expriment leur colère sur les réseaux sociaux,
oui, voilà,
notamment.
Twitter, Instagram, sous ce slogan « No pay, no play ». Pas de paix, pas de jeu. Des appels notamment reliés par les stars américaines du foot féminin, Megan Rapinoe, Alex Morgan. Les Jamaïcaines, de leur côté, elles parlent de manque de respect. Alors ça, c'est la joueuse Khadija Shaw qui s'exprime dans une vidéo sur Internet. Voilà ce qu'elle dit. « Peu de gens savent tout ce qu'on a dû sacrifier rien que pour porter le maillot de la Jamaïque. C'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi pour changer le regard sur le foot féminin en Jamaïque. » Elle dit « On ne jouera plus un seul match tant qu'on ne sera pas payé à 100%. » Elle rajoute même « S'il y avait une Coupe du Monde demain, on ne la jouerait pas. »
Situation ubuesque, mais que répond la Fédération Jamaïcaine alors ?
Selon les responsables, les joueuses auraient déjà reçu une partie du paiement, mais à la Fédération, ils concèdent que oui, il en manque. Alors, le problème, disent-ils, viendrait de la FIFA, donc la Fédération Internationale, qui n'aurait toujours pas versé à la Fédération Jamaïcaine une partie de l'argent récolté grâce à la participation mondiale. Cette somme doit servir à payer les joueuses et le versement est censé intervenir à la fin du mois de septembre. Là, les joueuses, elles restent vraiment sceptiques et puis dépitées parce qu'elles avaient tout bien fait, hein, ces filles, en parvenant à se qualifier pour la Coupe du Monde. Déjà en soi, c'était un exploit parce que à peine quelques mois avant les matchs de qualification, avant le Mondial, l'équipe avait été dissoute par la Fédération Jamaïcaine. C'était la deuxième fois en 10 ans. Cette équipe, du coup, elle a été remise sur pied par 2 fois. Un peu de briques, un peu de broc, des joueuses au double, triple journée. La générosité d'un entraîneur bénévole. Et puis ça. Le titre de cette chanson, c'est Strike Hard.
J'ai cru que c'était la Grande Sophie. Je me disais, décidément, la Grande Sophie va dans tous les styles. Hein.
Cette chanson, elle est née il y a quelques années au plus fort de la crise entre la sélection nationale et la fédération, grâce au plus grand soutien sans doute de ces Reggae Girls. C'est la famille de Bob Marley, grand fan lui, de foot là-bas. De son vivant. Alors on doit la naissance de cette chanson à l'une de ses filles, Cédella Marley, qui l'a produite exprès en soutien aux footballeuses. Elle a levé beaucoup de fonds après qu'un jour, à la sortie de l'école, son fils est revenu avec un tract. Soutenez l'équipe féminine de foot. Et ce sont 2 fils de Bob Marley, Damian et Stephen, qui chantent sur ce titre.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.